Bonsoir, Frédéric Cauchemann.
Bonsoir Frédéric, nous avons pour l'instant quatre participants, cinq maintenant, ils arrivent les uns après les autres, je leur dis successivement de couper leur micro.
D'accord. Et donc tu fais une petite introduction pour expliquer le
Oui,
principe? D'accord.
je vais un peu expliquer comme la dernière fois, mais tu vas très vite prendre la parole.
D'accord.
Et puis ensuite, nous irons aux questions-réponses, j'en ai transmises un certain nombre,
Oui,
je n'ai plus
je les ai
transmis
reçus.
d'ailleurs.
Je les ai reçus au fur et à mesure, dont celle d'aujourd'hui.
Bonsoir, Bénédicte Delarue.
Bonsoir Bénédicte, Michel Bilan. Donc Frédéric Cauchemin est également arrivé.
Bonsoir Bénédicte.
Je te demande de ne pas oublier de couper le micro histoire de ne
J'en ai
pas
pas mis, j'en
entendre.
ai pas mis.
Hein? D'accord. Tu n'en as
Non,
pas
non,
mis,
j'en ai pas mis.
c'est-à-dire qu'il faut que tu coupes ton micro tout le temps de la conversation, sauf si tu dois poser une question.
Oui, non, non, mais je l'ai pas mis.
Mais si, puisque tu parles. Ça, c'est
Mais
bon.
micro, soit je raccroche mon téléphone, soit j'ai un
Non,
amplificateur.
sur le. Oui, enfin, normalement, tu as une fonction pour couper le micro, que ce soit avec un téléphone ou avec un iPhone. Tu as un endroit où il y a marqué couper le micro. Ce qui te permet, tu peux toujours écouter, mais ton micro est coupé. Chaque fois que nous entendons un bip, c'est quelqu'un qui rentre ou quelqu'un qui sort. Hein.
D'accord. Alors, est-ce qu'ils ont fait paraître la carte des départements là ce soir? Est-ce que le Nord-Pas-de-Calais est en rouge ou orange ou vert? Vous avez
Bien,
suivi?
apparemment, nous avons, d'après le Webmind d'hier, il semblerait que nous restions orange
Oui, mais aujourd'hui,
pour
ils
le
devaient
moment.
enlever le orange et passer soit rouge, soit vert.
Ah,
J'avais la notion de ça.
j'ai pas suivi.
Ce serait important pour la région, hein, de savoir.
Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bien, bonsoir. L'heure étant l'heure, je pense qu'il va falloir que nous commencions. Donc, je suis Michel Bilan, je suis l'organisateur de cette soirée et nous allons avoir l'intervention, bien évidemment, de Frédéric Cauchemin. Il est absolument essentiel que chacun arrive à couper son micro. Ça ne vous empêche pas d'entendre, mais ça vous évite d'avoir un effet Larsen ou d'écouter la vaisselle que vous utilisez, parce que peut-être vous êtes au moment du repas. Chaque fois que vous entendez un bip, c'est quelqu'un qui rentre ou quelqu'un qui sort, donc ça ne faut pas y faire trop attention. Si je suis trop gêné par un micro, je serai obligé de vous expulser. Donc si vous coupez, si vous perdez la communication, c'est que je vous ai viré parce que votre micro était encore branché et que ça gênait. Tant que ça ne me gêne pas, ça va, mais à partir du moment où ça gêne, je suis obligé de vous expulser. OK? Bon, Frédéric, je te laisse la parole après cette introduction un peu agressive, mais je pense qu'il faut mettre les pendules à l'heure dès le départ.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, Michel. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Frédéric Cauchemann. Hein, j'ai l'avantage de connaître beaucoup d'entre vous. Je me représente pour les autres. Donc, je suis pédopsychiatre, psychiatre. Hein, j'officie juste en face du CHR de Lille, clinique Lautréamont. Hein, c'est une clinique de prise en charge de jeunes hein, qui ont entre 8 ans et 25 ans. Donc ça me permet de soigner du petit jeune en CE1 au jeune adulte. Et actuellement, on travaille toute la journée entre Covid, patients Covid plus, Covid moins, et en même temps souffrance psychique. Donc on a par exemple patients anorexiques, Covid plus, etc. Donc c'est double soin, je dirais, hein, double effort, parce que c'est vrai qu'on ne chôme pas. Et c'est dans ce contexte-là qu'avec mon expérience de psychiatre, je vous propose de faire un point ensemble, hein, pendant environ 40 minutes à peu près, pour qu'on ait aussi un quart d'heure, 20 minutes d'échange, hein, plus questions-réponses autour de ce fameux déconfinement qui s'approche, puisque nous sommes aujourd'hui à quelques jours du déconfinement progressif, hein, et donc je pense qu'on va avoir un afflux de patients cette semaine sur et docteur, comment on va faire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'école, quel est votre avis, docteur? Et vous savez à quel point nous avons encore un rôle important pour aujourd'hui donner une influence positive pour nos patients sur les conseils du docteur sont encore parmi les plus écoutés de notre société. Donc, agissons là-dessus. Premier point, hein, c'est une première introduction sur comment fonctionne notre cerveau. Hein, et donc, il y a beaucoup de choses que vous savez dans ce que je vais vous dire. Hein, et pendant longtemps, vous savez, on avait l'idée hémicerveau droit, hémicerveau gauche. Ça, c'est complètement obsolète. On sait aujourd'hui que le cerveau s'est développé en pelure d'oignon, on peut dire, à partir du système reptilien, d'un cerveau reptilien que nous avons toujours au fond de nous, au fond de notre cerveau. C'est pour ça qu'on peut dire que notre cerveau s'est développé en pelure d'oignon. On a toujours notre cerveau reptilien sur lequel s'est greffé ensuite notre système limbique, c'est-à-dire un cerveau pro.
Ah, je t'ai coupé. J'ai coupé notre intervenant parce que j'ai essayé de couper quelqu'un qui était en micro. Ah, zut alors.
Allô ?
Oui, Frédéric, tu as été coupé.
Je suis juste.
Oui, tu as été coupé parce que le numéro que tu m'as donné n'était pas celui de voir à 0,75 sans doute. Excuse-moi, mais ça c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait du bruit. Alors c'est, bon, c'est très ennuyeux ça, pardon. Excuse-moi. Hein.
Allô?
Donc Frédéric revient.
Oui. Voilà, donc je reprends. Donc nous en étions au système hein, de notre cerveau. Voilà, au cerveau reptilien, hein, sur lequel s'est greffé notre système limbique, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous hein, du corps calleux, hypothalamus, thalamus, noyau caudé, hippocampe, c'est amygdale hein, qui a un rôle majeur, c'est nos instincts primitifs, c'est nos émotions primitives, c'est celles que nous partageons avec un lapin, un ours ou un chien. Et seulement après... Hein, après les primates, nous avons développé beaucoup plus de neurones que les autres mammifères, et ces neurones font en particulier notre cortex frontal. On peut dire hein, qu'aujourd'hui, on a un système de contrôle de nos émotions animales limbiques, qui sont donc en système limbique, en sous-cortical, par le cortex frontal. On a un effet dit up-bottom, c'est-à-dire que c'est notre cerveau de la raison, c'est le cortex frontal, et le cerveau de nos émotions primitives, colère, peur, instinct de survie, c'est notre instinct qui est dans le système limbique. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je vous invite à faire un petit dessin à vos patients en dessinant un cerveau coupe sagittale, un cerveau de profil, en leur montrant le centre du cerveau qui est le siège de nos émotions primitives. Et ce siège de nos émotions primitives, depuis la nuit des temps, est bâti pour nous faire survivre. Et comment nous faire survivre au mieux? Eh bien, en nous faisant penser que tout est potentiellement danger. À partir du moment où on ne contrôle pas une situation, notre cerveau est branché pour penser négatif. Imaginez que vous soyez dans une forêt tropicale, la nuit, à la nuit tombée, hein, et que tout d'un coup, derrière vous, vous entendiez un arbre qui bouge. Vous allez immédiatement penser, pensée automatique négative, donc initial pan, eh bien, vous allez penser, il y a une bête, hein, je vais me faire tuer, je vais mourir. Mais on n'a pas besoin d'aller dans une forêt tropicale pour ça. Vous allez un soir dans une rue d'un quartier un peu difficile à Lille de nuit et vous entendez des pas qui se rapprochent de vous derrière, pan, vous allez immédiatement penser « je vais me faire agresser ». Donc ça, c'est notre système de survie. Notre système de survie est branché depuis toujours pour nous faire penser négatif. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre situation actuelle. C'est-à-dire que tout est fait et branché pour nous faire penser négatif. Quand on est dans un instinct de survie, vous savez que c'est utilisé par les politiciens, par exemple. Parce que les politiciens, en nous faisant penser négatif, nous font vivre quelque chose qui va être « on se rapproche de qui ? On se rapproche du chef ». Imaginez nos ancêtres, une horde de loups il y a 30 millions d'années. Ils sont dans une forêt en Laponie avec un loup dominant. Tout d'un coup, incendie dans la forêt, on est en plein été en Laponie, la forêt prend feu. Que font les loups? Ils regardent tous le chef dominant. Et à partir du moment où le chef court vers la gauche sur la colline en hurlant, eh bien, il n'y a pas... Tous les semblables vont courir et vont aller derrière le chef. Ils ne se posent pas cette question. Il n'y a pas de clivage avec la moitié des loups qui vont partir dans un sens et l'autre moitié qui vont partir dans un autre. Et c'est grâce à ça que tous nos ancêtres ont survécu. C'est-à-dire que si un chef politique aujourd'hui dit « nous sommes en guerre hein, », en gros, il y a le feu dans la forêt, « suivez-moi », eh bien, c'est une remarquable façon de faire suivre tout le monde dans un contexte, par exemple, politique. Mais ce qui se passe aussi en ce moment dans ce cerveau, hein, qui est notre cerveau qui nous emmène vers quelque chose de très primitif, eh bien, on va penser négatif. On va penser négatif, et vous savez que 25% de la population est susceptible d'être soumise à des thèses complotistes. Hein, qu'on a eu à foison depuis ces 20-30 dernières années. Il n'y a jamais eu un avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, même sur les tours du World Trade Center, si ça tombe, c'était pas Ben Laden, mais c'est un complot de l'État. Le coronavirus a été créé dans un laboratoire en douce par des Chinois à Wuhan. Hein, ça, c'est quand même l'un des complotistes célèbres de notre planète, c'est quand même le fameux président Donald, hein, Trump, hein, qui est complètement complotiste. Hein. Donc, y a ce côté-là. Et c'est 25% de la population. 25% de la population est susceptible de croire très facilement à des thèses complotistes. Et c'est important aussi de dire à nos patients quand ils sont sur ces thèses complotistes, vous savez très bien, docteur, que le coronavirus a été créé par les Américains ou par les Chinois ou par Kim Jong-un ou par qui on veut, hein, ou par un extraterrestre. Eh bien, c'est important de lui expliquer pourquoi et comment ça marche. Ça marche comme ça parce que c'est notre instinct du cerveau à penser au négatif et à penser au danger. Et en plus, on va suivre ses semblables. Vous savez, c'est le fameux modèle, par exemple, du David Vinci Code, hein, ce fameux best-seller d'il y a quelques années, où tout d'un coup tout le monde se sentait éminemment savant parce que tout le monde avait lu Da Vinci Code et puis c'était une évidence que Jésus était encore a eu des enfants avec Marie-Madeleine et que machin, parce que on était tous devenus tout d'un coup exégètes de la Bible et scientifiques de l'histoire de la chrétienté, et tout le monde pensait savoir parce qu'ils avaient lu. Et donc vous voyez, ça c'est des choses tout à fait typiques de on est ensemble, on est semblables, et je suis devenu quelqu'un de savant. Sur les réseaux sociaux, c'est très fort, sur Twitter, etc. Regardez le nombre de savants, entre guillemets, sur Twitter, qui critiquent les travaux des scientifiques, alors que les gens n'ont aucune notion de ce que c'est qu'une publication scientifique, comment ça marche et comment c'est publié. Si vous pouvez éteindre vos micros, parce que c'est très difficile pour moi, j'entends plein de gens hurler, des enfants qui jouent, donc merci de couper les micros. Donc, dans ce côté-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux modèle de la théorie du complot, hein, qui est dû à la fois à l'effet de meute, c'est-à-dire que si plein de gens pensent ça, eh bien on va être comme les loups et on va suivre la meute. Et vous allez voir qu'on va pouvoir l'utiliser quand même de manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus efficace. Mais c'est important aussi de dire aux gens, vous avez raison de penser comme ça. On est dans un milieu actuellement et les médias jouent énormément là-dessus. Je me suis amusé, si je puis dire, à prendre en photo tous les médias récents, et en particulier les magazines des mois de mars et avril. C'était terrible et je vais en faire des diapos pour des futurs topos qu'on fera entre nous, hein, sur combien de temps, combien de gens vont survivre. Nous sommes aux portes de la mort, le pays en danger, et toutes les unes des Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Express, Marianne et tout ce que vous voulez ont fait des titres
tellement inquiétants. La conférence.
Oui, vous avez une question? Donc merci de couper vos micros encore une fois parce que j'entends des gens hurler maintenant, hein, et c'est vrai que c'est difficile de faire des un topo dans ces conditions. Merci beaucoup à vous. Donc vous avez tous les journaux qui font du négatif parce que c'est le négatif qui accentue notre système limbique et qui nous donne cette écoute, hein, on est branché sur le négatif. Et il n'y a rien de pire actuellement que les patients qui écoutent en boucle BFM ou France Info ou toute autre chaîne de news, parce que essayez de le faire, vous allez voir, on déprime au bout de quelques heures, parce qu'on n'entend que des horreurs. Le nombre de morts qu'il y a eu aujourd'hui dans les EHPAD, et aux États-Unis c'est encore pire, et en Angleterre il y a eu 700 morts hier, et peut-être que l'AREA va réexploser la semaine prochaine avec le déconfinement. Et si on écoute ça non-stop toute la journée, on ne fait qu'activer notre instinct animal, notre système limbique qui nous fait penser en négatif. Donc c'est aussi l'un des conseils très pratiques et très pragmatiques à dire à nos patients, c'est arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit dans les journaux, faites autre chose, allez vous balader, prenez un bon bouquin positif, regardez un film comique, mais sortez des médias en pensant que les médias vont vous donner toutes les dernières informations et que vous allez être informé et donc sécurisé. Parce que c'est totalement faux. les médias sont branchés pour nous vendre de la mort, parce que c'est la mort qui fait vendre les journaux. Vous savez que les médias, c'est génial, ils se frottent les mains depuis 3 mois, parce qu'ils ont tous explosé leur audimat, leur vente de magazines, etc., bien sûr. Donc, et ils les explosent parce qu'ils vendent du négatif et de la mort. Donc ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point pour rassurer nos patients, parce que ça, c'est un point aussi qui m'apparaît très important, c'est de parler scientifique. Ce que je vous propose en tant que médecin, c'est d'être fondamentalement dans notre objectif scientifique. Nous avons fait médecine avec ce regard scientifique, nous restons fondamentalement, et c'est ce qu'on fait. Vous avez lu comme moi ce qu'on dit avec le plus d'objectivité possible sur hydroxychloroquine ou non, et les autres antiviraux, parce qu'il est très important, et c'est de notre devoir déontologique vis-à-vis de nos patients, de leur apporter avec la meilleure efficacité et substratum scientifique possible, les traitements qui peut-être vont sauver des vies, et sûrement même. Donc bien sûr qu'on essaye d'avoir cette objectivité. Et cette objectivité, on peut la retranscrire à nos patients. On peut leur dire, vous voyez, de manière calme, stoïque, empathique, posée et fondamentalement scientifique. Moi, je suis en plus d'un naturel fondamentalement optimiste. Et donc, j'ai montré, par exemple, aujourd'hui à des parents de patients, les fameuses courbes des mathématiciens de Singapour. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses courbes en cloche, en fait. Et d'ailleurs, le fameux professeur Raoult, dont on entend beaucoup parler, qui est devenu une vedette aujourd'hui dans notre pays, a basé une vidéo qu'on trouve sur YouTube depuis la semaine dernière là-dessus. Il nous montre ces enquêtes de mathématiciens épidémiologiques de Singapour qui ont suivi avec des chiffres extrêmement précis la courbe du virus depuis le début. Depuis son entrée dans chaque pays, et ils ont fait ça pour tous les plus grands pays du monde. Et qu'est-ce que nous dit cette courbe ? Premièrement, c'est une courbe en cloche extrêmement classique. Dans l'état actuel des choses, quand les patients nous posent des questions, il n'y a pas de deuxième vague. Aucun élément scientifique médical nous fait dire aujourd'hui qu'il y a, en l'état, une deuxième vague. On a quelque chose d'hyper classique dans la courbe des épidémies, c'est-à-dire une courbe en cloche, et on est tout au bout de la cloche. C'est-à-dire que selon, et je vous donnerai tout ça sur Internet, je vous les enverrai ce soir, les coordonnées sur Internet pour que vous ayez ces données, selon les courbes de ces mathématiciens et épidémiologistes singapouriens, eh bien, demain 7 mai, on aura eu 97% des patients qui ont été infectés par le virus, il reste plus que 3%. Et d'ici, selon cette étude pour la France, d'ici le 19 mai, j'ai la courbe sous les yeux et on est tout au bout de la cloche, 99% des gens qui doivent être infectés par le virus l'auront été. Il restera encore que de manière ensuite anecdotique et sporadique quelques cas. Oui, on va encore entendre parler de quelques morts dans les EHPAD, encore de quelques morts en réanimation, mais ce ne sera plus rien parce que ça fait très longtemps qu'on a passé la courbe. Ça, c'est pour la France. Ça veut dire qu'en étant tout à fait scientifique, on peut montrer ces courbes même, vous pouvez les imprimer et les montrer à vos patients, pour leur dire, voilà, on en est là. C'est un peu comme si on avait couru 97% du marathon. Autant dire qu'on est au dernier kilomètre du marathon et qu'on voit la ligne d'arrivée. Donc c'est bon, le plus dur est fait. Le soleil revient, c'est bientôt l'été. Soyez, voilà, confiants comme moi, optimistes. On est dans une forme d'épidémie qui, somme toute, a tué 2 fois plus qu'une grippe classique. Une grippe classique en France, on sait que ça tue entre 8 000 et 15 000 personnes. Là, on va être, je pense, sur la fin à 26 000, 27 000. C'est 26, 27 000 de trop, bien évidemment. Mais c'est pour ça qu'il est important aussi de dire aux patients, voilà, non pas de banaliser, mais de redonner les vraies données scientifiques. J'en profite pour dire d'ailleurs que je trouve détestable cette coutume française de d'attaquer nos hommes de bonne volonté. Parce que vous savez que on adore détester Raoult, il se fait insulter de tous les noms sur les tweets, etc. Je ne le connais pas, ce professeur, mais je respecte de nature mes confrères. Regardez par exemple sur PubMed, vous savez, c'est le site internet, je vous l'enverrai par exemple, les publications de ce professeur, c'est l'un des scientifiques les plus renommés au niveau international. international. Hein, c'est une personne qui est connue dans le monde entier pour ses travaux depuis des années. Hein, il n'a pas attendu le coronavirus, hein, sur les virus, sur les bactéries. Et donc, c'est quelqu'un qui a publié dans le Lancet plusieurs fois, etc. Hein, ce qu'on peut, de toute façon, ne pas lui reprocher, c'est que c'est un scientifique, hein, qui est reconnu internationalement. Hein, c'est la moindre des choses aussi de respecter nos collègues et nos maîtres, en l'occurrence, hein, puisqu'il est, hein, vous le savez, c'est un mandarin, un professeur de Marseille. Et voilà, je ne pense pas qu'ils disent que des conneries, comme on entend souvent. Hein, et ça, c'est un point aussi que je trouve quand même malheureux, qu'on a une recherche aujourd'hui sur le coronavirus en grande partie grâce à son équipe qui est reconnue et qui est écoutée partout dans le monde. Et la grande majorité de nos concitoyens se moquent, insultent, et beaucoup, beaucoup de médecins. Hein, donc bon, c'est juste, je voulais faire cette parenthèse. Hein, pour, je pense que on va avancer mieux en enlevant, vous savez, tout le côté émotionnel, tout le côté sensationnaliste, justement tout le côté complotiste, hein, et en essayant d'être les plus objectifs possibles. Et l'une des objectivités, c'est de suivre tout simplement des données scientifiques actuelles. À ce propos, j'en viens à l'école. Et je cite un autre de nos maîtres. Hein, je l'ai entendu ce matin, je vous enverrai le lien web sur France Info en me levant. Peut-être que vous avez fait la même chose que moi. Hein, je vous disais à nos patients de ne pas écouter la radio non-stop toute la journée. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même écouter un petit minimum, quoi, en se levant le matin. Et sur France Info, il y avait le professeur Jean-Paul Stahl, qui est l'équivalent de notre professeur Senneville, hein, qui est le professeur de médecine infectieuse et tropicale au CHU de Grenoble. Et qu'est-ce qu'il nous disait ce matin, hein, site internet, on retrouve ce discours-là, eh bien que les enfants, il n'y a aucune raison qu'on ait peur d'envoyer nos enfants à l'école, et même il s'amuse avec un titre provocateur, il dit « Je suis persuadé qu'il est beaucoup plus dangereux de laisser les enfants à la maison aujourd'hui, avec des parents qui vont faire des allers-retours et aller travailler et peut-être amener du virus, que de les laisser aller à l'école. » Hein, donc c'est aussi important aussi de pouvoir citer quand nos parents nous disent « Ah ben oui, mais moi il n'y a pas question, docteur, j'envoie pas mon enfant à l'école, hein, vous rendez compte, on ne sait pas ce qui va arriver. » Premièrement, ce que nous dit aujourd'hui ce professeur, qui lui aussi a pignon sur rue, c'est que les enfants, en fait, sont très peu infectés. Aujourd'hui, on le sait par rapport, c'est une évidence, hein, par rapport à un EHPAD. Le risque entre un enfant de 5 ans et une personne âgée de 87 ans en EHPAD, ça n'a absolument rien à voir. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus ce soir. Et ces enfants, en fait, sont très peu symptomatiques. On le sait, pour plus de 99% d'entre eux, ils ont une forme extrêmement bénigne. En gros, ils ont fait un petit 37,8, ils ont toussé un peu pendant 2 jours et eu mal au ventre. Hein, et c'est tout ce qui est arrivé. Et surtout, leur charge virale est tellement faibles qu'ils sont extrêmement peu contaminants. Même en ayant un enfant dans les bras toute la journée qui serait Covid+, on a très peu de chances, hein, nous dit-il, en tant qu'adulte, d'être contaminé parce que sa charge virale est en fait extrêmement faible par rapport à la charge virale d'une personne âgée. Donc autant dire qu'il est important aussi de donner ces informations. Je vous donnerai donc l'article et le lien internet ce soir, ce qui vous permettra de le donner à vos patients en disant voilà ce que pensent nos maîtres, nos universitaires français aujourd'hui nous disent que c'est tout à fait logique et normal en l'état aujourd'hui, hein, je vous parlais des mathématiciens de Singapour aussi, de dire on peut envoyer nos enfants à l'école, il n'y a pas de problème. Et on sait très bien en plus qu'on est dans un pays sérieux, hein, on n'est pas dans une république bananière, et on sait très bien donc que toutes les conditions drastiques seront prises dans les écoles. Et tous les parents le savent, ils ont entendu un élève sur deux, ils auront 2 mètres de distance à l'école, masque pour les profs, etc. Donc toutes les conditions sont réunies pour que les gens puissent se sentir tout à fait à l'aise dans ce côté scolaire. Donc voilà, mon avis, il est clair. Hein, je le partage avec l'extrême majorité de mes confrères pédopsychiatres. Bien évidemment, hein, que dans l'état actuel de nos connaissances sur le virus, sur les enfants, il n'y a pas lieu du tout d'empêcher les enfants d'aller à l'école. Et ça va être aussi un point extrêmement important pour eux, pour retrouver le lien social. Les enfants sont malheureux, sont tristes, parce qu'ils ne voient plus les copains et les copines. Et c'est pour eux extrêmement important de renouer avant tout ce lien social. Certes, les jeux dans la cour vont être un peu plus surveillés que d'habitude, pour le moins, et en même temps ils vont quand même retrouver les copains, ils vont retrouver Brian, ils vont retrouver Cindy et Tom et Léa, et quel plaisir de revoir tout le monde. Donc ça, c'est un point absolument essentiel et antidépresseur pour nos enfants, d'aller repartir voir les copains. Souvenons-nous de nos jeux à la récré quand on était petit, bien sûr que c'est super important de revoir tout le monde. Pour l'école, on en reparlera si vous le souhaitez après. Je voulais parler également de notre alimentation. Ça, c'est un point essentiel. Autre info du jour que vous avez peut-être entendu comme moi. Moyenne de prise de poids, vous avez entendu la moyenne de prise de poids depuis le début mars de tous les Français, plus 2,5 kilos. Hein, peut-être qu'on se sent un tout petit peu moins concerné que les autres parce que pour beaucoup d'entre nous, on a continué à bien bosser. Donc, on met beaucoup de gens sont devenus beaucoup plus forcément sédentaires. Hein, ils sont devant Netflix toute la journée ou à plus sortir de chez eux. Et donc, c'est plus 2,5 kilos et les femmes sont plus touchées que les hommes. Donc, c'est une bonne occasion pour prendre de bonnes résolutions, hein, et surtout pour tous les collègues qui sont très intéressés par tout ce qui est nutrition, hein, ben, de proposer effectivement un programme sport, une alimentation équilibrée. Et c'est génial parce qu'on est dans la saison parfaite pour bien manger. Qu'est-ce qu'on va faire manger à nos personnes? Eh bien, on va faire manger des produits extrêmement bons pour la santé qui sont anti-stress. Donc, on va éviter, comme je vous l'avais dit déjà la fois dernière, tous les aliments inflammatoires. Parce que le stress étant lui-même un producteur d'inflammation chronique, il est très important qu'on ait comme idée générale un régime bien équilibré sur le plan acido-basique et également anti-inflammatoire. Je rappelle quels sont les inflammatoires puissants. Le plus puissant inflammatoire, ce sont les viandes. Hein, les viandes rouges en particulier, mais toutes les viandes en général, et celles qui sont les plus gros inflammatoires, c'est les charcuteries. Toutes les viandes, en fait, transformées, dites également ultra-transformées, de la cochonaille, une merguez, etc., sont des super inflammatoires. Donc, on va conseiller aux gens de manger plutôt des produits de la mer. On va éviter toutes les graisses saturées. Donc, pareil, hein, même chose, on va éviter les viandes, on va prendre des oméga-3, hein, et on va se faire des maquereaux et des sardines au barbecue. Hein, et, quoique, barbecue, vous allez me rétorquer, c'est pas trop bon pour la santé, mais si c'est une fois de temps en temps pour pouvoir revoir la famille, et se faire un bon barbecue le premier week-end du déconfinement, bien sûr que ça va faire du bien à tout le monde. Hein, et ça, c'est des points importants. Et puis, on évite les sucres rapides. Donc, on arrête les sucreries non-stop et on va passer à des fruits. Hein, ensuite, dans ce qu'on va conseiller comme aliment, hein, si je fais vite, hein, parce que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez, le chou, bien sûr, tous les choux sont des puissants hypoglycémiants, antidépresseurs, anti-inflammatoires. Ils réduisent les cancers à condition d'en consommer souvent. Hein, le chou vert contient 3 fois plus de calcium métabolisable que le lait, par exemple. Est-ce que vous savez ça, par exemple, le fameux chou kale, hein, c'est 3 fois plus de calcium que du lait. Donc, on va faire manger plein de choux, hein, tous les choux en général. Hein, donc, chou-fleur, chou-kale, chou vert, chou rouge, chou de Bruxelles, tous les choux sont bons. En fruits, on va privilégier des pommes, idéalement bio, parce que vous savez que sinon, les pommes sont remplies de pesticides et autres, hein, mais et les bio aussi d'ailleurs. Hein, ça agit sur les vaisseaux, sur la capacité respiratoire. Donc, bien évidemment, en moment de coronavirus, c'est très important. Le citron, il booste nos globules blancs. Hein, c'est aussi un puissant pro-immunitaire, le citron. Et donc, ça peut être tout à fait intéressant d'utiliser le citron. Actuellement, aussi, on va parler de toutes les algues. Hein, tout ce qui vient de la mer en général, il y a quasiment rien qui est mauvais, hormis, vous le savez, les gros poissons. Ceux qui ont absorbé tous les petits poissons, plus ils sont gros, plus ils sont chargés de cadmium, de mercure, etc. Donc, privilégiez les petits poissons. Les algues sont, vous savez que les algues sont plein de magnésium. C'est incroyable. Il y a certaines algues, comme le wakame, qui sont à 2600 mg de magnésium pour 100 grammes. C'est énorme. Hein, donc, les algues, wakame, kombu, nori, manger japonais. Manger des makis, du wasabi qui est riche en réfort, qui est un puissant antioxydant, un petit thé vert avec ça, et de la noix. Les noix, en général, c'est extrêmement bon, tous les fruits secs, plein d'oméga-3, de bons acides gras, des protéines indispensables. C'est excellent pour le fonctionnement des neurones grâce aux sphingomyélines. C'est l'aliment déstressé par excellence. Donc des noix, des fruits, tous les fruits du monde, faites manger les fruits, les bons fruits exotiques, plein de carotènes comme le mangue, comme tous les fruits exotiques sont excellents. Et enfin dans les fruits, je citerai les fraises, tout ce qui est fruits rouges sont des pleins d'anthocyanes, sont des puissants aussi anti-stress. Il y a des belles études, et je vous donnerai les liens, sur le microbiote aussi. Et il y a des études passionnantes là-dessus, concernant le coronavirus. En particulier, je vous adresserai tous les liens. On pense aujourd'hui que ce fameux coronavirus est également bactériophage. C'est-à-dire qu'il infecte, non seulement il rentre dans nos cellules humaines, mais il rentre également dans nos cellules bactériennes. Et en particulier, l'une des cellules bactériennes qui sont en particulier, au plus on est vieux, au plus on a une microbiote riche en grammes moins. Vous savez, en bactéries grammes moins. Et l'une de ces bactéries grammes moins, c'est la Parvotella. Cette Parvotella est une saloperie, pardonnez-moi l'expression, parce que c'est une bactérie qui pullule quand on est en stress, hein, quand on est donc un microbiote complètement déséquilibré. Et cette pullulation de Parvotella fait des endotoxines qui vont engendrer un syndrome inflammatoire et qui vont affaiblir notre système immunitaire. On a établi un lien, en réa en particulier, entre la mortalité et un microbiote déséquilibré. La meilleure façon de faire disparaître et de retrouver un équilibre de notre microbiote, c'est donc de donner des probiotiques à nos patients. Et certains probiotiques seraient vraiment des vrais protecteurs contre le coronavirus, et en particulier les dégâts qui passeraient par notre microbiote. D'aucuns, même, peut-être que vous êtes intéressé et que vous connaissez mieux ces sujets que moi, d'aucuns pensent que les fameux syndromes inflammatoires majeurs qui viennent compliquer ces infections au coronavirus. Vous savez que ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que c'est pas le coronavirus qui tue les gens en réa. C'est la réaction dysimmunitaire chez certains qui est complètement explosive, qui est complètement déséquilibrée, anormale, et qui pourrait être médiée en grande partie par un microbiote qui vient foutre aussi son bazar dans tout ça. Et donc, il faut réussir à faire partir le plus de Parvotella possible. La meilleure façon de faire, c'est de prendre des bifidobactéries qui sont en particulier le plantarum. Vous allez pouvoir rechercher. Il y a un labo français, par exemple, qui s'appelle Microéquilibre et qui fait un probiotique qui est très riche en Bacillus plantarum. Si vous voulez, je vous le mettrai aussi en lien internet. C'est celui que je suis en train d'utiliser sur moi actuellement et je m'en porte très bien. Voilà, ça c'est des points importants aussi, notre alimentation au niveau de ce qu'on peut proposer dans ce moment de déconfinement. Passer beaucoup de temps avec les patients pour leur dire profitez-en pour mieux manger. Les écrans, on a trop vu les écrans. Autre donnée aussi est récente, on est passé de 3h30 d'écran par jour en moyenne par Français, ce qui est déjà, je trouve, énorme, à 4h47. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 50% de consommation d'écran, ce qui est dans une certaine logique. Par désœuvrement, les gens se sont mis devant Netflix, Disney+, et autres Amazon Vidéo et Canal+, etc. Mais c'est pas bon pour la santé. Et ce qui est encore plus mauvais pour la santé, c'est les jeunes qui sont toute la journée devant leur console, devant des jeux violents, les Fortnite, les Overwatch, etc. Ou qui sont devant leur smartphone toute la journée à chatter, à envoyer des photos sur Instagram. Donc ce que je conseille aux parents, c'est d'en profiter aussi pour prendre des bonnes résolutions post-confinement. Et de ne plus mettre d'écran tous les jours. Moi, ce que je conseille à tous les parents du monde, c'est pas de jeux vidéo ou pas de choses comme ça tous les jours pour les enfants. Parce que si on donne une addiction tous les jours, on rend la personne addicte. Si vous faites fumer tous les jours, vous aurez beaucoup plus de dépendance et beaucoup plus rapide que si vous fumez une cigarette par semaine. C'est une évidence et c'est exactement pareil pour les écrans. La discontinuité d'un produit addictif le rend moins nocif. Donc il est important de discontinuer les produits addictifs comme les écrans chez les jeunes. Par exemple, et de manière pratique, je préconise, on joue aux jeux vidéo à la maison, qu'on soit à l'école primaire ou au collège, ou même au lycée, le mercredi après-midi, par exemple parce qu'on n'a pas cours, et le week-end, mais jamais les jours scolaires. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, on joue pas aux jeux vidéo. Et ce que je vous propose, c'est de conseiller à vos patients de faire des journées digitales détox. Qu'est-ce que ça veut dire une journée digitale détox? Ça veut dire qu'on invite par exemple la famille à la maison, les amis, mais le dress code, c'est pas de téléphone. Tout le monde vient et on va vivre comme à l'ancienne. Il y a quelques années, quand on n'avait pas de téléphone, et pourtant il y avait une vie, ça va étonner nos jeunes, mais oui, il y avait une vie, on pouvait survivre sans téléphone. Et là, on s'amuse à faire ça. On va faire un camping dans la forêt de un pique-nique dans la forêt de Falampin, pas ce week-end-là, mais le week-end prochain. On va faire, un barbecue dans le jardin et inviter des amis et de la famille. On règle les précautions d'usage, on fait attention quand même, on se fait pas la bise tout de suite. Et en même temps, on va faire des jeux de société, on va faire des chansons, des times up, on va faire un concert improvisé à la guitare, à l'harmonica, etc., une chorale, et on fait sans téléphone. Ça, c'est génial, et c'est aussi remontrer aux gens, et à nos jeunes en particulier, qu'il y a une vie sans téléphone. Donc ça, c'est des points très importants de reprendre des bonnes habitudes. La nature, il est très important dans cette période de déconfinement de retrouver quelque chose qui est fondamental en nous, c'est-à-dire notre esprit nature. Rappelons, et j'en parle depuis tout à l'heure, que notre génétique à nous, notre génétique d'hominidés, eh bien évidemment, on a été créé depuis 7 millions d'années de notre ADN. On vivait où ? Bah, dans les bois, dans les huttes, dans les grottes. Et fondamentalement, ça nous manque énormément, la nature, aujourd'hui. On est tous enfermés dans nos baraques depuis 2 mois. On a besoin de bouger. Et dès qu'on peut, comme on pourra aller à 100 km de Lille, de Roubaix, de Tourcoing et de... Voilà, on peut aller jusqu'à Bredune. Bah, même si on peut pas aller mettre les pieds dans l'eau, rien que marcher, de prendre l'air de la mer. Hein, j'en parlais il y a 5 minutes, on va se faire un tour en forêt. Hein, dans la forêt de Mormal, de Falampin, de où vous voulez. Mais on va aller dans la forêt, faire une belle balade. Et pourquoi pas, on se fait un petit pique-nique, on se fait des sandwichs et tout, et on va aller voilà, se faire une belle balade dans, dans nos campagnes. Hein, dans l'Audomarois, dans... Voilà, il y a tellement de beaux endroits qu'on va redécouvrir dans notre région. Et ça, c'est important comme assignation de tâche à vos patients, de leur dire, allez toucher la nature. Faites de la sylvothérapie. Vous savez qu'il y a des très belles études japonaises en particulier, les Japonais sont très forts là-dedans, qui ont montré les bienfaits anti-stress, de protection immunitaire et antidépresseur de la sylvothérapie. C'est-à-dire d'aller caresser et câliner un arbre, aller poser, marcher pieds nus dans la forêt ou dans un champ, et tout simplement se reconnecter à la nature. Profitons-en et envoyez tous vos patients et vous en premier, pas ce week-end-là, mais le week-end d'après, on se retrouve tous à Bredune, à Audrecel, à, que, je sais pas où vous voulez, à Ouaplage. Vous avez déjà fait la plage du Platier-d'Oie, cette énorme plage, on a l'impression qu'elle est sans fin, qui est restée très sauvage. Redécouvrons la région et allons nous faire des belles balades. Hein, on va revenir bien fatigué, mais ça nous ferait le plus grand bien. Et enfin, le lien social. Bien évidemment, recultiver ce lien social, je vous en parlais la dernière fois, c'est fondamentalement l'un des points les plus antidépresseurs qui existent, le lien social. C'est-à-dire que les fameuses études de psychologie positive ont montré que ce qui différencie les gens heureux des gens malheureux, hein, et c'est des études qui ont été faites sur des milliers de personnes, eh bien, c'est que les gens heureux ont beaucoup plus de liens sociaux que les autres. Ils se retrouvent en convivial dans des conférences de FMC de Tourcoing le soir. Hein, ils vont, voilà, ils font des apéros avec les amis dès qu'on sera en déconfinement. Hein, on va aller revoir la famille, on va refaire des... J'ai envie de faire un tennis, j'ai envie de refaire du vélo, j'ai envie de faire un foot. On a envie de revoir les gens. Et ça, c'est fondamental, et c'est l'un des meilleurs antidépresseurs qui existent. Donc, envoyez les gens faire du lien social, revoir les gens. Je pense en particulier, vous m'avez posé des questions dessus, sur les gens qui ont eu une solitude forcée. Pensons à tous les gens qui sont seuls, hein, partout autour de nous. Hein, moi, j'ai par exemple, autour de moi, là, j'habite à Saint-André, les Lilles, un petit magasin, la petite droguerie juste à côté, avec deux gentilles mamies comme tout qui tiennent le magasin. Hein, on leur a téléphoné plusieurs fois, on leur a proposé de venir les voir, de faire leurs courses. C'est des petits gestes comme ça, mais c'est ça, c'est cette empathie-là, et c'est ces gestes-là qu'on va demander à nos patients de faire, qui vont sortir des gens de la solitude, de les gens qui étaient dans la solitude déjà de base, ils ont dû se sentir incroyablement encore plus dans une solitude au carré depuis 2 mois. Donc allons voir les gens, refaisons du lien et invitons nos patients à faire ce lien parce que c'est l'un des meilleurs antidépresseurs qui existent. Sur le plan, d'ailleurs puisque je parle des antidépresseurs, nous avons aussi des cas de pathologie bien sûr. Hein, et on a certains patients qui sont dans la pathologie. Je pense en particulier, premièrement, et on en a beaucoup parlé, à l'état de stress post-traumatique. Alors, je suis relativiste là-dessus, hein, moi qui suis spécialiste de des traumatismes chez les jeunes en particulier, hein, et je pratique beaucoup de thérapie là-dessus, EMDR, etc. Les états de stress post-traumatique du confinement en tant que tel, j'ai envie de dire, faut pas exagérer. Hein, un état de stress post-traumatique, c'est quand on a eu une effraction dans notre vie et qu'on a failli mourir. Alors oui, trois fois oui pour tous les gens qui ont passé leur temps, qui ont passé la réa. C'est-à-dire que vous avez sûrement, pour la plupart d'entre vous, des patients qui ont failli y passer. Hein, moi, j'ai des copains médecins dont je salue, sans le citer, un très bon copain du Dunkerquois, hein, qui a failli, qui est resté 3 semaines en réa et qui s'en est sorti grâce à sa force morale et mentale. Et donc, on a tous, je pense, dans nos entourages, dans nos patients, des personnes qui sont passées en réa. J'ai en tête, le mari d'une personne proche, hein, qui a passé 3 semaines en réa à 35 ans, hein, qui a failli mourir. et qui décrit que en fait il se réveillait, maintenant il s'en souvient, sa mémoire revient, il se réveillait, il était attaché à son lit. Ils avaient fait une contention manuelle parce qu'il était dans un état de confusion et d'agitation, et donc il se levait en pleine nuit plus calme et il se rendait compte qu'il était complètement attaché à son lit. Donc il n'arrivait plus à parler, il était en dyspnée intubée et il se débattait dans son lit, attaché dans son lit. Et il en fait maintenant des cauchemars et des flashs. Donc oui, là c'est un état de stress post-traumatique. Je pense clairement que tous les gens qui sont passés par l'AREA ont un état de stress post-traumatique derrière à soigner. Donc ça, c'est des points essentiels. Bien évidemment, leur famille aussi. Sa femme, depuis quand il était en réa, a vécu toutes ses nuits et toutes ses journées en se disant « Comment je vais faire? Mon mari, si ça tombe, va m'annoncer d'une heure à l'autre qu'il est mort. » Et elle a pensé ça pendant 3 semaines, non-stop, 24 heures par jour pendant 3 semaines. Donc elle aussi, elle fait très vraisemblablement un état de stress post-traumatique. Pour ces patients-là, le traitement génial, c'est le MDR. C'est un traitement à base de mouvement des yeux. Et moi, je suis parmi les personnes qui sont persuadées que l'EMDR, et pour certains d'entre vous, je vous ai formé, c'est tout à fait applicable et praticable en médecine de ville. Si vous voulez vous former à l'EMDR, et c'est une formation, on veut monter avec un copain une formation en 2 jours. Si vous voulez vous former, même peut-être une journée, si vous voulez vous former à l'EMDR pour soigner toutes ces personnes en post-Covid, je vous mettrai le lien aussi sur le site de Michel et de l'AFMC de Tourcoing. Les troubles anxieux, oui bien sûr, on va avoir plein de troubles anxieux par une forme d'épuisement psychique, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a vécu dans la promiscuité et qu'on n'en peut plus des cris et des bagarres et des disputes de nos enfants, vivement qu'ils soient à l'école, ça c'est aussi un autre critère pour les renvoyer à l'école. Donc troubles anxieux, j'ai envie de dire surtout éviter les benzos. Parce que la facilité, ça va être de mettre les gens sous Xanax, sous Lexomil, sous Temesta. C'est pas une bonne idée pour une raison principale, c'est que premièrement, vous le savez très bien, ça rend dépendant. 15 jours de benzo et on n'arrive plus à s'arrêter. Et surtout, ça va perturber le sommeil. Les benzodiazépines vont empêcher le sommeil profond, vont faire du stade 1 et 2 de sommeil et empêchent les stades 3 et 4 de sommeil et le stade paradoxal. Or, le sommeil paradoxal, c'est le meilleur moyen qu'on a pour empêcher les traumatismes, pour ne pas avoir des choses coincées dans notre tête quand on a vécu une période de stress. Donc il n'est pas logique aujourd'hui, sur le plan neuroscientifique, de mettre une benzodiazépine. Il vaut mieux, si vraiment le patient est anxieux, mettre de la Tarax, par exemple. Et puis moi, je vais mettre en première intention aussi de la phytothérapie. Ça peut être, des compléments. Évidemment, le fameux magnésium. Un magnésium bien biodisponible. On a tous nos marques préférées, ça c'est un point important. Moi, j'ai un produit que j'utilise beaucoup et que je connais bien, qui est le Rhodiol Plus. C'est le laboratoire Dissolvurol qui fait ça. Et le Rhodiol Plus, c'est un mélange de Rhodiola rosea, c'est une plante anti-stress, adaptogène, on dit, pour ceux et celles qui connaissent. C'est de la théanine, donc c'est le thé vert, et c'est également de la dopamine, puisque c'est le L-tryptophane, précurseur de la dopamine, qui va être un excellent réactivateur de plaisir. Donc le Rhodiol qu'on donne le matin, par exemple 1 ou 2 comprimés le matin, c'est un super produit tout à fait naturel, en complément alimentaire, et qui peut être très efficace dans les troubles anxieux. Que faire pour les épisodes dépressifs, parce que pour certains patients, oui aussi. Vous voyez, il y a 3 grands diagnostics possibles en post-corona. C'est état de stress post-traumatique pour les gens qui ont vraiment vécu le corona en direct. Mais pour beaucoup de patients, ça peut être des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Donc on va rechercher bien évidemment des troubles dépressifs. Je vous conseille d'utiliser des échelles d'évaluation, d'auto-évaluation. Soit la PHQ-9, je vous enverrai le lien, soit l'échelle de Beck, Beck Depression Inventory. Vous pouvez le trouver vous-même. Mettez sur Google PHQ-9, c'est Physical Health Questionnaire, d'où PHQ-9, PDF français sur Google. C'est une petite échelle de 9 questions et ça va vous permettre de rechercher si vos patients sont dépressifs. S'ils sont dépressifs, je ne vais pas forcément et du tout pour la plupart les mettre directement sous antidépresseurs. Sauf si vraiment votre patient est dépressif profond avec des idées suicidaires. Mais si on n'en est pas là, je vous conseille en premier de faire aussi, premièrement, des plantes qui ont démontré leur efficacité par des études randomisées, contrôlées. Donc je fais de la phytothérapie scientifique. Les 2 grandes plantes qui sont considérées comme les plus antidépresseurs, c'est le millepertuis. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous le prescrivez, millecalm, milledac, qui est une plante ubiquitaire, qui est une belle fleur jaune qui pousse dans nos régions. J'en ai plein sur le parking de la clinique. Et enfin le safran, donc les pistils de crocus, qui sont la de safran a été montré par beaucoup d'études. Il y a même eu des études Prozac versus safran en études contrôlées. Il n'y avait pas de différence significative d'efficacité entre le Prozac et le safran. Je vous enverrai aussi les études. Donc ça peut être pas mal. Autre idée pour éviter de mettre un antidépresseur en première intention, c'est des précurseurs de la sérotonine. Donc le tryptophan. Et je vous propose par exemple de faire Tryptocalm, qui est du tryptophan. Avant on avait la prétonine, qui maintenant n'est plus sur le marché, mais on sait que le tryptophan va agir à partir du moment où il n'est pas pris dans un syndrome inflammatoire. C'est-à-dire que si le patient est dans un état inflammatoire, tout le tryptophan va être absorbé par l'inflammation. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir en même temps une nourriture anti-inflammatoire. Tryptocalm, très bon produit qu'on va donner plutôt le soir. Pourquoi ? Parce que c'est le précurseur donc de la sérotonine, et la sérotonine étant le précurseur de la mélatonine. Donc c'est plus logique de donner, par exemple, je parlais tout à l'heure, la L-tryptophane le matin, comme le rhodiol, et le tryptocalm le soir, par exemple au cours du repas du soir, deux tryptocalm. C'est un antidépresseur naturel, qui n'est pas en fait un antidépresseur selon son nom, mais agit en fait en boostant nos capacité naturelle à fabriquer notre sérotonine. Donc ça, c'est des points très importants. Je finis enfin, avant de vous laisser la parole, sur quelques façons d'avoir votre discours avec vos patients. Et j'emprunte à ça ce que je fais dans ma vie quotidienne. En tant que psychothérapeute, je fais pas mal d'hypnose. Et c'est très intéressant d'utiliser des principes d'hypnose conversationnelle. Donc déjà, je vous parlais du fait d'être calme, posé, empathique. Si le patient nous sent calme, optimiste, voilà, confiant, eh bien, on va avoir un effet contaminant, contagieux, je m'amuse à dire ça exprès, sur lui, et on va lui raisonner de manière scientifique, objectif, et c'est ça que nos patients aiment bien. C'est le succès des émissions, vous savez, C'est pas sorcier avec Fred et Jamy, etc., ou E égale M6, nos patients adorent qu'on leur donne une explication scientifique. On leur explique ce que ça fait, comment, et c'est ce que vous faites, je pense, et que vous avez fait depuis deux mois, expliquer comment agit le coronavirus, comment l'éviter, quels sont les risques vraiment contagieux ou non. Eh bien, ce discours-là, c'est très rassurant pour nos patients, à partir du moment où on leur explique. Alors, les points à utiliser, c'est le renforcement, c'est donner confiance à votre patient. Il faut que le patient se sente compétent. C'est dire des choses à votre patient, et vous le faites, je pense, très naturellement, faire des louanges à ses patients. Je sais que vous êtes intelligent, je sais que vous avez toutes les ressources pour vous avez parfaitement compris que bien sûr que vous pouvez mettre votre enfant à l'école, que bien sûr que vous pouvez reprendre le boulot, que bien sûr que ça n'a aucun sens de mettre votre masque chirurgical en conduisant en voiture, ça me fait sourire quand je vois tous les gens en voiture, fenêtres fermées qui sont avec leur masque. Et donc, on va renforcer positivement le patient en disant qu'il est hyper compétent et qu'on adore travailler avec des patients intelligents comme lui parce qu'il a tout compris tout de suite. Et puis, il y a un côté aussi qui est très important, c'est moi je fais ça. N'oubliez pas que, on en parlait tout à l'heure, on va faire comme nos semblables. Les loups qui voient l'incendie dans la forêt, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, ils vont faire comme leurs semblables. Si une personne, il y a eu des très beaux tests psychologiques comme ça qui ont été faits à New York en particulier, ils font exprès de faire un départ de feu dans la rue, et si une personne voit le départ de feu, dans 75% des cas, elle va prévenir qu'il y a un départ de feu. Elle va téléphoner, elle va appeler les pompiers de New York. Si on fait exprès passer deux acteurs devant qui ne font rien, qui voient le feu, qui regardent la fumée et qui continuent comme si de rien n'était, eh bien le troisième patient lambda derrière, en fait le sujet témoin, dans 38% des cas seulement, il va appeler les pompiers parce que les deux autres n'ont rien fait. On fait comme nos semblables. C'est notre nature de faire comme ça. Et donc vous pouvez jouer dessus en hypnose conversationnelle. Vous pouvez dire aux gens, vous racontez-leur une histoire en disant, vous savez, ça va être super la semaine prochaine. On va revoir les gens, c'est-à-dire vos semblables, se balader en forêt. Oh, moi, ça me manque de faire du shopping à Lille. Il va y avoir du monde à Lille la semaine prochaine. Vos semblables seront à Lille, sous-entendu. Il va y avoir du monde et vivement que les restos rouvrent. On va se mettre en terrasse. Oh, je suis pressé de prendre un bon apéro, même un petit café en terrasse à Lille, mais j'attends ça avec impatience. On va se retrouver avec les gens. Il va y avoir des sourires, des échanges, de la convivialité. Ça va être super. Et vous pouvez dire aussi, en utilisant vous en tant que semblable, moi, je fais ça le week-end prochain. Je vais me faire un barbecue avec les copains, je vais aller à la plage avec mon épouse et les enfants. Donc votre influence est très importante. Vous pouvez utiliser le Yes 7. Le Yes 7, c'est un processus très connu et qu'on utilise aussi en marketing, en politique. Quand on dit plusieurs fois oui, on va être dans le cerveau va faire sans faire exprès oui pour la suggestion que vous allez lancer après le Yes 7. Ben, Yes 7, c'est de dire, ben, on est bien mardi aujourd'hui. Non, on est mercredi aujourd'hui. Non, on est bien mercredi aujourd'hui. Il fait encore beau dehors. Hein. Regardez comme il fait encore beau dehors. Vous voyez comme moi, peut-être par la fenêtre, un beau ciel bleu avec ces beaux arbres qui sont en face de chez moi. On va avoir un grand week-end en plus. C'est chouette. On va avoir un week-end de 3 jours. Et puis, voilà. Et puis, le printemps est là. Et puis, bientôt l'été. Et vous allez voir à quel point vous allez être positif et relaxé dans les jours qui viennent. Ça, c'est du Yes 7. En fait, vous faites plusieurs choses qui sont des truismes, en fait. Bien, oui, bah oui, il fait beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas vous contredire. Oui, on est bien mercredi. Oui, il est bien déjà 20h45. Oui, etc. Et la dernière suggestion que vous faites, et vous allez être relaxé, est tellement plus positif à partir de maintenant et à partir de l'entretien qu'on a eu ensemble. Eh bien, vous allez voir que le cerveau du patient inconsciemment dit, bah oui, ok, je vais être plus relaxé. Donc, utilisez le Yes 7. Faites des choix illusoires aussi. Et utiliser l'engagement et la cohérence du patient, je finis là-dessus. L'engagement et la cohérence du patient, c'est on est tous dans un besoin de faire comme nos semblables, de s'engager à faire quelque chose, et on est cohérent avec nous-mêmes. Si par exemple, un SDF vous dit « t'as 2 euros ?», on va souvent lui dire non. Mais si le SDF prend une voix déjà plus accorte, plus sympathique en demandant « Vous avez l'heure, monsieur, s'il vous plaît ?»« Oui, oui, il est 20h45. Et vous savez, j'ai juste un train à prendre, il manque 2 euros pour prendre mon train, vous n'auriez pas une petite pièce pour m'aider ?» Et comme vous allez être dans une cohérence interne, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à l'aider, entre guillemets, puisque vous lui avez donné l'heure, vous allez voir, il y a des belles études aussi qui ont montré ça. Dans 70% des cas, là, vous allez lui donner 1 euro que vous avez dans la poche, hein, parce que vous êtes cohérent avec vous-même, puisque vous avez déjà commencé à l'aider. Ça, c'est des choses tout à fait typiques. Il y a eu une belle étude de psychologue avec des déménageurs. C'est-à-dire que il y a des déménageurs qui posent un carton dans la rue et qui demandent à une personne qui passe, témoin, vous pouvez me porter ce carton s'il vous plaît? Eh bien, la personne, dans moins de 20% des cas, va dire, bah non, j'ai pas le temps, je peux pas vous aider. Par contre, le déménageur, et c'est un acteur dans l'étude, fait tomber ses clés par inadvertance soi-disant. Et donc le patient témoin, là, eh ben, il ramasse les clés, il le donne au déménageur. Le déménageur le remercie beaucoup et lui demande s'il veut bien porter juste ce carton-là hein, avec lui jusqu'au bout de la rue. Eh bien, dans 70% des cas, à partir du moment où on a déjà commencé à donner ses clés, on rentre dans une cohérence. Et donc le patient qui veut pas s'asseoir dans votre cabinet, qui veut pas prendre sa tension, vous allez lui dire, mais enfin, monsieur Dupuis, vous avez pris rendez-vous. Vous êtes engagé à venir me voir. Vous avez fait tous les efforts et je vous en remercie d'ailleurs parce que moi j'adore cette alliance thérapeutique qu'on a ensemble. Vous voyez, vous faites du S7 en même temps et vous avez pris votre voiture pour venir jusqu'ici. C'est bien ça. Et vous avez attendu un petit peu en salle d'attente. Et vous venez me voir pour me parler de votre santé. Et donc, vous voyez, vous êtes engagé à faire tout ça depuis le départ. Et moi je m'engage et vous le savez, à être votre médecin comme je l'ai été depuis des années. Et c'est important pour moi parce que c'est ma responsabilité de vous maintenir en bonne santé. Donc maintenant que vous êtes engagé à tout ça, vous comprenez que c'est important de vous engager à prendre votre tension. D'ailleurs, vous préférez que je prenne votre tension au bras gauche ou au bras droit là ? Ça, c'est ce qu'on appelle le choix illusoire en hypnose. Vous savez, souvent, on va dire au patient, quand on a déjà fait tout un ensemble d'étapes et le Yes 7, on va dire au patient, mais vous préférez rentrer en hypnose lentement ou rapidement? On s'en fout, d'ailleurs, qu'il réponde lentement ou rapidement. Mais le patient, quelle que soit la réponse qu'il donne, il nous a dit, je préfère rentrer en hypnose. Donc, il nous autorise à le faire rentrer en hypnose. Eh bien, là, c'est pareil. Quand vous dites à votre patient, vous préférez que je prenne votre tension au bras droit ou au bras gauche? Eh ben, quel que soit le bras qu'il choisit, on s'en fout. Mais il vous a autorisé à prendre sa tension, alors que 5 minutes avant, il vous disait, il est hors de question que vous me touchiez avec votre tensiomètre que vous avez utilisé avec d'autres patients. Donc, vous voyez, ça, c'est l'hypnose conversationnelle est un magnifique outil que vous pouvez aussi apprendre, hein. Il y a des très belles formations là-dessus pour pouvoir, bien gérer, hein, toutes ces situations auprès de nos patients. Donc, je vous laisse la parole maintenant, hein. Je suis désolé, j'ai un petit peu débordé, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc, je vous laisse, sur les questions et je tenterai d'y répondre. Une question ?
Alors, tout le monde peut parler, hein. J'ai bloqué un certain nombre de micros en cours de conversation, mais maintenant, tout le monde peut parler et poser des questions.
D'accord.
Le plus difficile, c'est toujours la première question.
Oui. Bonsoir. Comme on n'a pas beaucoup de temps.
Je voudrais poser une question, docteur Charlet à Wattini.
Oui. J'ai une petite question. Bonjour, docteur Charlet.
Bonjour. J'ai une petite question par rapport à justement à tout ce que vous avez dit sur les enfants qui sont finalement très peu porteurs et très peu contagieux, etc.
Oui.
Et j'ai un peu du mal à comprendre l'importance des mesures mises en place à l'école avec des mesures qui, j'ai une crainte, c'est qu'il y ait un retentissement quand même psychologique sur des enfants qui doivent rester assis avec des enfants de maternelle qui doivent rester assis, personne autour d'eux, ne pas toucher les mêmes jeux que les autres enfants, etc.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense
là,
que c'est effectivement anxiogène.
Ils continuent à aller à l'école, et c'est normal, entre guillemets. Ils font les gestes de distanciation avec les adultes et avec les autres enfants. Pendant la classe, ils ne sont pas assis juste à côté. À la cantine, ils ne sont pas assis juste à côté. Mais la récréation, c'est une récréation.
Mmh.
Et là, du coup, je me dis que c'est, psychologiquement, ça va être super compliqué parce qu'ils attendent le retour à l'école et ça va être...
Je suis 100% d'accord avec vous. Si on les empêche de faire une récré, si on leur dit surtout tu touches pas aux autres élèves et qu'on a des profs qui sont super anxieux ou des surveillants super anxieux, le grand risque, c'est qu'on sait que c'est très contaminant, l'anxiété. Vous savez, c'est le côté typique, il suffit que dans une panne d'ascenseur que l'un des membres de l'ascenseur se mette à paniquer, il va contaminer tous les autres. Donc là, on sait que l'anxiété est très contagieuse. Et c'est très important qu'on ait, nous, le discours vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des surveillants d'école, de dire « soyez cool, ça va, quoi, soyons réalistes et raisonnables. Les enfants sont très peu contagieux, ils ont une charge virale tellement faible qu'ils ont quasiment pas de risque et que de toute façon, on est au bout, là, pour ce virus, et c'est bientôt la fin. Et enfin, on en est tous bien contents, on s'en est bien sortis. Donc soyez, foutez-leur la paix, laissez-leur, on va prendre les précautions minimales. Mais je pense aussi, moi, pour les plus petits, et je pense en particulier aux enfants de maternelle, avoir la maîtresse avec un masque toute la journée, qui a l'air pas bien, qui sait pas comment gérer, eh ben ça va être stressant pour les enfants. Et donc le risque serait qu'on induise plus de stress que s'ils étaient restés à la maison. Donc c'est un point important, et je vous rejoins complètement, docteur Charlet, là-dessus. C'est que, c'est de dire aux écoles, soyez cool, prenez les précautions, les solutions hydroalcooliques, quelques masques, ok, mais laissez les enfants jouer dans la cour, ça va, ils en ont besoin, ça fait 2 mois qu'ils sont enfermés chez eux. Et donc ça, c'est un point important aussi, d'une certaine coolitude et d'une situation zen dans les écoles. Et je pense qu'en tant que médecin, on peut aller donner des conseils, on peut aller dire aux écoles, peut-être faire une mini-conférence, un mini-topo avec eux, en leur expliquant tout ça. Je vous enverrai donc le lien internet, là, du professeur Stahl et de ce qu'il dit, parce que c'est important de leur faire lire ça en disant voilà, pas d'angoisse, soyez rassurés. On va pas dire pas d'angoisse en hypnose conversationnelle, parce que vous savez que l'inconscient n'entend pas le négatif. Si je vous dis ne pensez pas à un chat vert, mais non, je vous dis de ne pas penser à un chat vert. On peut pas avoir une phrase négative. L'inconscient, il entend que le positif. Donc ça veut dire si on dit à quelqu'un n'ayez pas peur, eh bien le cerveau entend ayez peur. Donc on dit pas n'ayez pas peur, mais on dit soyez rassurés, soyez zen, soyez cool, et soyez dans la joie de enfin reprendre les cours après 2 mois d'arrêt, et de redonner ce bonheur aux enfants de se retrouver ensemble. C'est ça qui est important avant tout, qu'on ne tombe pas dans la paranoïa scolaire.
Ok, merci beaucoup.
De rien. Autre question ?
Oui, bonjour, je suis médecin généraliste. Je voudrais poser une question par rapport à une patiente qui s'est déjà fait agresser à l'aide secrétaire en mairie.
Oui.
Et elle a peur, je la comprends aussi, de réactions agressives de gens qui seront déconfinés. Et par exemple, dans le cas de manque de masques ou de trop de restrictions ou de réactions agressives. C'est vrai que les gens vont sortir déconfinés, stressés, angoissés, surinformés. Comment gérer un peu cette anxiété, cette colère, ces réactions agressives des gens?
Premièrement, les colères, les réactions agressives sont signes de leur angoisse. On sait que l'animal blessé, l'animal angoissé, c'est là qui risque de donner un coup de griffe. On sait très bien que ces formes d'agressivité, ça souligne effectivement, comme vous le dites très bien, le stress et l'angoisse de certains sujets. Donc, l'idée générale, c'est de se dire, oui, il y aura des sujets qui sont pénibles, qui sont des citoyens qui sont pas modèles et qui font transparaître leur angoisse par de l'agressivité sur les autres. Ce qui est important pour cette dame à la mairie, c'est de rester calme, posé, dans la mesure du possible de garder le sourire et de faire passer comme message à la personne agressive, je suis votre semblable, encore une fois. C'est-à-dire, vous savez, je suis dans le même cas que vous. Se mettre en position basse pour qu'elle se prenne pas un poing ou une gifle dans la figure. En disant, vous savez, je suis moi qu'une employée de la mairie. Vous savez, je suis pas le maire, hein. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est tous dans l'attente, dans la même situation. Je vais tout faire avec toute l'équipe de la mairie pour satisfaire aux besoins de tous les citoyens, de vous comme les autres, parce qu'on est tous dans le même cas, monsieur. On est tous dans le même bateau, on est ensemble, hein. Et à partir du moment où le patient dit, bah oui, c'est vrai, je suis en train d'attaquer une de mes semblables, il est possible que ça puisse l'aider à se calmer. Par contre, évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est l'escalade, hein. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on va crescendo, qu'on commence à gueuler plus fort que la personne en face, eh bien, la personne en face va se sentir encore plus angoissée, donc va être encore en plus en train de hurler, et à un moment, elle va perdre son contrôle, et le poing dans la figure peut partir. Donc, c'est un point important, au contraire, d'être dans une position basse, en expliquant à la personne, je suis votre semblable. Est-ce qu'il a d'autres questions?
Écoute, oui. Fred, j'ai l'impression que ça se calme. Que,
d'accord.
Il faut dire que tu nous as bien abreuvé.
Oui. Je vais vous envoyer, comme je vous le disais, beaucoup de liens internet, des fiches d'évaluation, de l'anxiété, de la dépression, de l'état de stress post-traumatique même, hein, pour que vous ayez des moyens et des outils qui peuvent vous être utiles, que j'envoie donc au docteur Bilan pour qu'il puisse les mettre sur le site, hein, bien riche et très bien fait de la FMC de Tourcoing, et que vous ayez accès à toutes les des documents aussi que vous pourrez passer à vos patients sur, par exemple, les fameux mathématiques singapouriens ou encore l'avis du professeur Stahl sur les enfants. Comme ça, vous aurez du grain à moudre et surtout du matos pour le passer à vos patients et les rassurer.
Je mettrai également une copie sonore des échanges d'aujourd'hui.
D'accord.
Et donc la dernière fois, j'avais mis les liens que tu m'avais donnés.
Oui, j'ai bien vu, oui.
C'est très intéressant. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Je retravaille un petit peu pour le mettre un peu plus en évidence. Mais enfin, c'est très bien. Je ferai ça sans doute après-demain, parce que demain, on travaille un petit peu. Puis ensuite, le 8 mai étant un jour de repos, je vais en profiter.
D'accord, je t'envoie moi tout ça ce soir et je prends toujours beaucoup de plaisir à être avec vous sur ces moments d'échange conviviaux et ensemble, hein, ça fait du bien de se retrouver ensemble. Donc merci pour cette organisation, Michel, et puis
merci,
à très bientôt
en vrai
pour des FMC en vrai.
Oui, nous revoir en vrai, ça ferait du bien quand même.
Hein, tout à fait.
C'est un grand plaisir de vous poser encore une question.
Oui, bien sûr.
Bénédicte de la rue Tourcoing, j'ai reçu ce matin une patiente dont la plus jeune fille a 14 ans.
Oui.
Elle est au collège et en fait, la maman me disait qu'avec le confinement, elle avait davantage passé de temps sur son portable, qu'elle avait perdu quand même des rapports avec le temps, avec l'organisation d'une journée normale. En fait, elle est tellement désorientée qu'elle annonce des idées noires, qu'elle se sent pas bien du tout dans sa peau, qu'elle a des crises de pleurs. La maman était assez inquiète, donc je lui ai demandé de se rapprocher d'une CMP, d'avoir d'abord une consultation téléphonique. Et puis, est-ce qu'il y a plus de raptus suicidaires chez ces jeunes adolescents dans ce là ou pas?
Oui, s'ils étaient déjà pas bien avant. C'est-à-dire que je ne pense pas que le confinement qu'on vient de vivre, et j'en suis même persuadé, pousse au suicide. Mais par contre, un jeune qui était déjà fragile avant, qui était déjà pas bien, prenons par exemple une jeune qui était victime de harcèlement scolaire, qui était déjà en souffrance et qui a vécu le confinement dans une situation négative en termes de trop d'écran, peut-être de tension à la maison, etc. Oui, ça peut avoir exacerbé les choses. Hein, en pratique d'ailleurs, si vraiment vous êtes inquiète pour votre patiente, et que vous pensez même qu'une hospitalisation pourrait être protectrice parce qu'elle vous dit qu'elle est suicidaire, vous pouvez bien sûr me rappeler et me téléphoner hein, pour voir s'il ne faudrait pas la prendre en hospitalisation, hein, c'est possible. Hein. Donc ça c'est un point pour les cas graves. Et par ailleurs, ce qu'il faut pour cette jeune fille, c'est la ramener à la nature, comme je disais. Allez, on se remet tout simplement à se recaler. L'aménagement des rythmes sociaux est très important pour reprendre l'école. On arrête d'être en décalage de phase et de se coucher à 4h du matin parce qu'on a joué aux jeux vidéo toute la nuit et de se lever à 1h de l'après-midi. On se remet petit à petit à des horaires adaptés parce qu'on reprend l'école dans pas longtemps. Et donc, on reprend un rythme normal. On fait du digital detox. Ce week-end, on va aller se balader en forêt. On va aller se balader, on va aller voir mamie, on va aller faire du sport, on va prendre les vélos et on va aller se faire une balade pique-nique et on va remettre cette personne dans un rythme naturel, avec un contact avec la nature en la sortant de son téléphone et de ses écrans. Hein, donc tout simplement en faisant des choses comme ça, et si besoin, cette jeune fille, elle a sûrement sur un déséquilibre, elle s'est fait un déséquilibre au niveau alimentaire probablement, hein, moi je penserais effectivement multivitamines, magnésium, probiotiques, ça peut pas faire de mal, hein, et ça peut contribuer à un retour d'équilibre.
Merci beaucoup.
De rien. Donc je vous souhaite une très belle soirée à vous tous. Hein, moi j'ai faim, là je vais aller manger. Et puis peut-être à bientôt pour d'autres FMC par téléphone ou surtout encore plus de plaisir, une FMC en vrai où on se retrouvera ensemble. Donc bonne soirée Michel et bonsoir à
Fred,
tous et
merci,
toutes.
Merci à tous, vous avez été très sages. Vous voyez, cette fois-ci on n'a pas eu de cacophonie comme une fois
tout à fait. Tout à fait, merci,
merci
beaucoup.
Merci à tous.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci, bonsoir.
Merci.
Merci à tous.
Bonsoir.
Merci.
Merci.
Merci, bonsoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonsoir.